Alors, je ne pouvais pas vous développer ça, mais nous, on est une agence nationale. Hein. Donc, on a des laboratoires quand même qui sont dans différentes régions, en particulier en santé animale et alimentation, parce qu'ils sont près des filières. Voilà, mais on a une évaluation nationale. Et pour tout ce qui est situation territoriale, par exemple, problématique de cité, sol pollué, etc., c'est plutôt Santé publique France qui a ses cellules d'intervention. Régionales en épidémiologie qui sont au niveau des ARS qui vont traiter ces questions, voilà, et nous on les aide par exemple sur les cités sol polluées pour établir des valeurs toxicologiques de référence pour tel ou tel toxique. Donc on regarde quand même territorialement, voilà. Un autre point, un autre exemple, c'est par exemple aujourd'hui on évalue beaucoup les risques liés à l'alimentation, à la fois nutritionnelle et contamination chimique, et on s'aperçoit que dans les DOM-TOM la situation sont parfois très différentes de ce qu'on a en métropole. Donc il faut qu'on ait cette vision territoriale, bien entendu, pour savoir un peu les différences à la fois d'exposition et donc de risque des populations qui peuvent en découler.
Il est à vous. Micro, il est là, le deuxième micro est à côté de l'ordinateur. Merci. Donc vous vous présentez comme chaque fois.
Nicolas Mourlon, ministère de l'Environnement. J'avais deux questions un peu de nature différente. Est-ce que les assurances, les régimes de prévoyance et tout, ont le droit de développer leur propre modèle? Est-ce qu'elles le font? Et est-ce qu'elles doivent collaborer avec l'ANSES? Elles ont accès à notre adresse, hein. Donc ça, la présence de facteurs environnementaux pour être intégrés dans leur propre modèle, sur les primes qu'ils appliquent. Et une autre question, notre nature, vous terminez, c'est la seule fois que vous l'avez évoqué, le mot sur précaution, un principe politique, hein, de décision à la fin.
Je l'ai évoqué au début, quand même.
Ouais, c'est hyper important. Parce que c'est une question, enfin, en l'absence, l'existence d'un risque grave irréversible, même si on a une incertitude, va conduire à une décision. Enfin, en gros, c'est ça. Est-ce que vous pouvez prouver qu'il n'y a jamais de risque? Est-ce que l'ANSES, par construction, peut démontrer qu'il n'y a pas de risque? Est-ce qu'elle peut dire à un politique, non, allez-y, c'est bon?
Non. La réponse tout de suite à cette question est non. Alors, sur la première question, alors, c'est un peu, les assurances, elles ont un certain nombre de données. Alors, on n'y a pas forcément accès. On peut demander, essayer d'avoir accès quand ça, c'est important pour certaines expertises. Voilà. Après, voilà, on peut leur commander. Nous, on a la possibilité de commander des données et ou de passer ce qu'on appelle des conventions de recherche et développement avec des équipes ou des organismes qui sont susceptibles de nous apporter des données. Voilà. En sachant qu'il y a toujours la problématique que quand les données viennent du privé, voilà, le regard de la société est différent quand elles viennent de la littérature scientifique, académique, classique, ou du public. On voit avec la polémique sur le glyphosate aujourd'hui, voilà, la source des données, l'origine des données. Ça, c'est une vraie problématique pour nous, hein, entre parenthèses. Voilà, le fait qu'on a un certain nombre de données qui proviennent des industriels, même si les processus d'évaluation pour les dossiers sont très bornés et que les industriels sont tenus à ce moment de bonnes pratiques de laboratoire, que les laboratoires qui travaillent pour eux sont régulièrement inspectés, etc. C'est quand même une problématique. Donc voilà, des données d'assurance, oui, certainement utiles, voilà, mais bon, on n'a pas forcément facilité à les obtenir, et donc ça serait bien qu'on puisse le faire plus facilement. Deuxième question, sur la précaution. Alors évidemment, on ne peut jamais dire qu'un risque, zéro, voilà. C'est pour ça qu'on fait toujours, on essaie d'avoir une gradation sur les niveaux de risque, sur les niveaux de preuve du risque et sur les incertitudes. Et c'est une question tellement importante pour nous qu'on a mis en place, nous, un groupe de travail qui a produit un très gros rapport, à la fois sur la question du niveau de preuve, quels sont les outils pour prendre en compte les niveaux de preuve, qu'est-ce qui est utilisé par plein d'organismes au niveau international, quels sont les outils qui sont les meilleurs pour nous, et sur les incertitudes. Voilà. Et on est en train de faire un certain nombre d'expérimentations sur pas mal de sujets dans nos collectifs d'experts sur ces deux problématiques. Comment bien les prendre en compte dans nos évaluations de risque, dans l'expertise, parce que derrière, effectivement, le niveau où on place les recommandations en fonction de la précaution, et c'est capital, bien évidemment. Plus on a d'incertitudes, évidemment, et plus le risque potentiel est grave, irréversible, avec une grosse population concernée, plus on va mettre la barre de précaution sur supprimer ou réduire les expositions. Voilà, puis si vous avez population moindre concernée, des risques moins importants au final que vous soupçonnez, vous allez plutôt mettre l'action sur de l'information, de la sensibilisation du public que sur de la suppression d'exposition. Voilà, donc pour nous c'est très important d'avoir une idée de tout ça pour savoir où on va mettre où on va conseiller au ministère en tout cas de mettre la barre de la précaution, hein, que ce soit ministère de l'Environnement, ministère de la Santé, etc.
Bonjour, Madame Picaroni, UIMM. Moi, je voulais vous interpeller sur deux points concernant la santé au travail. Le premier, c'est sur la mise en œuvre des réglementations européennes qui, sur l'évaluation des risques, notamment en entreprise, où parfois, moi, j'ai constaté dans ma vie professionnelle des différences de lecture qui entraînaient, par exemple, des valeurs limites qui étaient différentes. Par exemple, je parle des poussières de bois en France ou dans d'autres pays, et qui étaient de ce fait très mal compris par les entreprises, et puis qui pouvaient même créer une distorsion de concurrence, hein, très clairement. Donc ça, est-ce qu'il y a un travail qui est fait sur ce sujet? Parce que ça semble très particulier de lire chacun la réglementation à sa manière. Et la deuxième point sur lequel j'aurais aimé vous entendre, c'est si vous travaillez sur des risques qu'on voit de plus en plus émerger dans les entreprises, qui sont les risques psychosociaux, et où les entreprises sont un peu démunies, aussi bien sur l'évaluation que sur de la prévention sur ces sujets.
Alors, deux excellentes questions. Alors, sur la problématique directive européenne, alors il y a deux problématiques. Il y a la problématique de transposer les directives en France, mais... Là où on a des soucis, effectivement, c'est sur les valeurs limites, sur certains types de sujets comme ça, parce que les valeurs limites d'exposition professionnelle peuvent être effectivement différentes parfois d'un pays européen à l'autre, bien qu'il y ait un comité européen, vous savez, sur les valeurs limites, le SQL, qui est en charge de l'élaboration de ces valeurs limites en milieu de travail, donc au niveau européen. Donc nous, on interagit beaucoup avec le SQL, pour commenter leurs valeurs ou pour proposer un certain nombre de valeurs au niveau européen. Mais il n'empêche que, comme les réglementations restent nationales par la plupart, les valeurs peuvent différer. Alors nous, ce qu'on plaide beaucoup, on essaie toujours de porter ça au niveau européen, c'est qu'il y a une agence européenne des produits chimiques, qui est l'ECHA, qui est en charge du réglementaire de la réglementation REACH, CLP, et nous, on voudrait qu'il y ait, au niveau de l'ECHA, un comité européen qui soit en charge d'établir des valeurs limites qui seraient applicables dans les différents pays, voilà, de façon homogène, différenciée. Ça serait vraiment l'idéal. Voilà, je sais que la DGT était sensible à ce message, essaie de porter ça aussi au niveau européen. Pour l'instant, ce n'est pas forcément encore prêt, je pense, mais pour nous, l'avenir, il est là, très clairement. Alors, sur les risques psychosociaux, donc nous, quand on a mis en place la santé au travail dans l'agence, à l'AFSET, puis à l'ANSES maintenant, le ministère nous a dit vous avez beaucoup à faire sur les risques durs, chimiques, physiques, etc. Donc n'allez pas trop sur les risques psychosociaux. Il y a l'ANACT, mais le problème c'est que l'ANACT est une agence d'intervention sur les conditions de travail, c'est moins qu'une agence d'expertise comme nous. Il y a Santé publique France qui fait la surveillance épidémiologique. On s'aperçoit quand même qu'il y a un gap, qu'il y a un trou, et qu'il faut essayer de le combler. Donc on commence à venir un petit peu sur cette problématique, notamment à travers le réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles, aujourd'hui. Alors, en lien avec la CNAMTS, avec l'INRS, il y a la semaine prochaine, il y aura une conférence de presse de la CNAMTS, de la Direction des risques professionnels, sur les risques psychosociaux et les maladies professionnelles, accidents du travail, où ils ont compilé tout un tas de données, et nous, on aura donné les données du réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles, qui montre un certain nombre de problématiques aujourd'hui, comme par exemple la montée de certains types de risques psychosociaux, comme le burn-out dans certains milieux, où vous avez des cas de direction, des managers qui sont pas mal touchés par cette problématique-là, et puis la montée des risques psychosociaux dans certains secteurs d'activité, je pense à la finance, je pense à la santé, l'action sociale, je pense à les différents secteurs administratifs. Voilà, donc nous on essaie de regarder ça à travers le réseau et de montrer un certain nombre de secteurs où il y aurait une priorisation à faire pour si vraiment la prévention dans ces secteurs-là. Après, nous, on n'est pas responsable de tout ce qui est évaluation des risques en entreprise, évidemment, et puis de pouvoir faire intervenir des experts sur le terrain. Là, c'est plutôt vraiment le rôle de l'ANACT ou d'autres organismes.
Question ? Oui, allez-y. Le micro à droite, s'il vous plaît.
Bonjour, Vincent Chéry, directeur adjoint de la DDTM du Var. J'ai le vécu récent,
je vais essayer d'expliquer aussi pour ceux qui ne connaissent pas ces sujets, de l'application des ZNT, les zones non traitées, aux abords des points d'eau, notamment des cours d'eau, des établissements recevant un public sensible, par rapport aux pesticides. Donc il y a un arrêté ministériel qui est sorti en expliquant que chaque préfet de département, je remercie au passage le ministère pour cette bonne idée, devait déterminer ce que c'était un point d'eau. Et donc il fallait cartographier et préciser l'intégralité des cours d'eau, points d'eau, aux abords desquels donc il ne faut faire aucun traitement. Et puis ça vient compléter un autre arrêté qui interdit là aussi tout traitement aux abords, ce que je comprends aisément, hein, d'une école, d'un établissement public avec une population sensible, etc. Mais alors, je peux vous dire que les réunions avec le monde agricole ont été animées. Et puis ils auraient appris à me connaître, parce qu'à un moment donné, alors le sujet principal c'est le glyphosate. À un moment donné, je leur ai dit, bon, commence à m'emmerder, puisque de toute manière, le glyphosate est bientôt interdit. Donc là, j'ai cru que j'allais me faire coller au mur. Mais par contre, ils avaient un argument intéressant. Ils m'ont dit, mais si il y avait réellement un risque, finalement, on ne préconiserait pas de ne pas traiter aux abords d'établissements sensibles ou proches des cours d'eau. Donc pour eux, il y a quelque chose de bizarre. On dit, on nous permet d'utiliser des substances, mais on nous dit, pas près des cours d'eau, pas près des établissements. Donc on voit bien le raisonnement un peu tordu et spécieux qu'il y a derrière, mais je ne le trouve pas inintéressant. Et je voulais savoir s'il y avait une remontée au niveau de l'ANSES sur l'application, en fait, des préconisations, recommandations et réglementations que vous faites. Comment se fait la remontée ?
C'est une vraie question aujourd'hui. Vous avez parfaitement raison de soulever ce point, parce que c'est le souci qu'on a, nous, quand on fait un certain nombre quand on autorise la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, donc de pesticides. Chaque fois qu'on fait une autorisation, c'est pour une culture donnée, un ravageur donné, un usage donné. C'est toujours très précis. Voilà. Avec, effectivement, dans la prise en compte de l'autorisation, la problématique de ne pas contaminer des cours d'eau. Donc, des fois, on met des distances par rapport aux cours d'eau, effectivement, ou des distances par rapport aux riverains, etc. Et donc, derrière, il faut savoir si, dans la réalité, c'est appliqué, pas appliqué, etc. Donc, c'est une vraie question, parce que nous, on n'a pas de pouvoir d'inspection et de contrôle derrière. Ça, c'est plutôt dévolu au ministère de l'Agriculture, à la DGAN et à la DGCCRF, donc direction départementale, et donc avec les insuffisances de moyens que vous connaissez très bien. Et donc c'est difficile. Et donc c'est pour ça que la phytopharmacovigilance, c'est un enjeu majeur. Et donc dans la phytopharmacovigilance qu'on coordonne et qu'on met en place, on essaye de mettre en place des systèmes pour recueillir tout ça. Alors, en phytopharmacovigilance, on recueille les effets sur la santé humaine. Donc on a notamment via tous les dispositifs qui existent, centres anti-poison, etc. Mais aussi tous les effets sur l'environnement, sur la flore, etc. Et donc les conditions d'utilisation des produits phytopharmaceutiques, si les mésusages, savoir si les conditions d'emploi sont respectées ou pas, ça doit revenir du terrain. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place, nous, à l'agence, un comité de suivi des autorisations de mise sur le marché, où on a des utilisateurs de terrain, où on a des agronomes, on a des spécialistes de l'environnement qui nous disent ça c'est applicable ou pas applicable. Voilà, si on nous dit, quand on fait une évaluation et une autorisation mise sur le marché, savoir si ça correspond à la réalité ou pas, quoi. Donc ça, c'est très important. Et puis, donc, on est en dialogue. Et c'est pour ça aussi qu'on a un comité de dialogue aujourd'hui, c'est pour les utilisateurs sur le terrain puissent nous faire remonter leurs problèmes. Et voilà, c'est très 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 important aujourd'hui d'avoir des systèmes qui nous permettent cette remontée derrière nos évaluations pour savoir si on ne s'est pas planté, voilà, si on fait des belles choses théoriques, mais qu'en pratique, ça n'est pas réalisable.
Philippe Labattu, je suis MSA. Voilà, donc je aujourd'hui, MSA, voilà, oui, non, mais je suis bien, c'est pour ça.
Attends,
MSA plutôt contrôle médical, pas du côté Jean-Marc Soula.
Un grand partenaire.
Voilà, c'est ça. Non, il y a une réflexion en cours, là, rapport IGAS, et puis à l'Assemblée, sur la constitution d'un fonds d'indemnisation du risque chimique. Donc, quelle position ?
Je suis auditionné la semaine prochaine. Ouais,
moi, nous aussi, c'est pour ça que votre diaporama m'intéresse pas mal, parce qu'on est un peu mal à l'aise sur la situation. Voilà.
Clairement, enfin, mon opinion personnelle, oui, voilà. Oui, ça serait une grosse bêtise.
Bah, on a le même.
C'est pas l'amiante. Hein. L'amiante, il y a un risque avéré, il y a des pathologies assez spécifiques. Voilà, il y a des gens qui ont été exposés de façon très injuste, voilà, que ce soit en milieu professionnel ou dans l'environnement. Qu'aujourd'hui, on mette un fonds d'annulation des victimes d'amiante, ça ne me choque absolument pas. Pesticides, si vous voulez, alors on est quand même sur une discussion sur des risques qui sont les études et les organismes, que ce soit les organismes OMS comme le CIRC, ou que ce soit des agences, ou que ce soit même la littérature scientifique académique, on est à des niveaux de risques possibles, suspectés, probables. Les niveaux de risques avérés qu'on avait avec certains pesticides, ceux-là, ils ont été retirés du marché. Aujourd'hui, il y a quand même la possibilité de reconnaissance aux maladies professionnelles pour. Les gens qui sont exposés, parce que les risques ils sont essentiellement concentrés sur les risques professionnels aujourd'hui, beaucoup plus que sur la population générale. Donc, faire un fonds d'indemnisation de victimes sur des risques qui ne sont pas forcément avérés, avec le coût derrière, parce que le coût du système d'indemnisation de l'amiante et le coût de l'amiante actuellement, c'est entre 1 et 2 milliards par an. Voilà. Et pour les pesticides, ça risque d'être beaucoup plus, parce qu'il n'y a pas qu'un pesticide. Quoi. Donc, je veux dire, on a une façon de raisonner qui est quand même étonnante, puisqu'on raisonne par rapport à des multiples classes d'agents chimiques, comme s'il y avait un agent chimique qui était le pesticide, et que le pesticide en soi est dangereux, de toute façon, est à risque. On a même des députés qui sont un peu convaincus de ça.
Et donc, oui, c'est tout dit, voilà, qui nous auditionne, on est d'accord. Voilà. D'accord, merci, c'était personnel. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Oui ? Micro arrive.
Guy de Cernas, CFDT, plus particulièrement Provence-Alpes-Côte d'Azur. Question sur les nanoparticules. Est-ce que vous avez fait une...
J'ai pas eu le temps d'aborder.
Une étude ou pas. Alors, on prend l'exemple pour les travailleurs, par exemple, le métro marseillais. Donc, c'est sûr que les usagers qui restent quelques temps sont sûrement moins touchés, mais bon, ça c'est par rapport aux conditions de travail. Mais aussi, par exemple, si on prend le port de Marseille, les croisiéristes. Les beaux bateaux qui sont là avec les cheminées qui marchent toute la journée puisqu'il faut les garder au frais et qu'ils aillent faire leurs courses, c'est toute la population qui respire ces vapeurs de cheminées qui ne marchent plus au fioul lourd, parce que bon, près des côtes ils ont l'obligation quand même d'avoir un fioul entre guillemets correct, mais c'est du fioul quand même. Donc est-ce qu'il y a eu des impacts comme ça sur certaines cités, tout simplement sur la population?
Alors donc nous, on est chargé d'évaluation des risques. Tout ce qui est surveillance des populations et impact sur les populations, c'est Santé publique France plutôt qui est là-dessus. Alors ceci dit, il y a des études qui sont menées notamment par des équipes universitaires que nous, on a financé notre programme. Vous avez peut-être entendu parler d'études fausses EPCRL, justement, il n'y a pas longtemps, avec de la mise en évidence de risques cancérogènes plus importants, notamment de certaines maladies chroniques pour les populations autour de fosses sur mer. Une étude qui est contestée, qui est en train d'être regardée justement par Santé publique France pour savoir si vraiment les conclusions sont valides ou pas. Le point important, c'est que il y a des situations à risque qu'on ne connaissait pas forcément bien avant et qu'il faut absolument évaluer et qu'il faut surveiller. Ça c'est clair pour pouvoir prendre des mesures de prévention adéquates. Nous, on fait l'évaluation de risque. Pour les nanomatériaux, on a fait beaucoup de travaux. Et ce qui est important, c'est de pouvoir porter ça. Alors pour les nanomatériaux manufacturés, c'est-à-dire pas les particules fines, ce qui produit des nanomatériaux de cette façon, la réglementation européenne est très importante, donc on est en train d'essayer de faire évoluer la réglementation REACH pour l'adapter aux nanomatériaux, parce que pour l'instant elle n'est pas adaptée, puisque vous avez que dans REACH sont enregistrés, sont évalués les produits qui sont produits à plus d'une tonne. Et une tonne pour des nanomatériaux, c'est absolument considérable, énorme, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc on veut faire évoluer la réglementation, mais c'est un un challenge au niveau européen, parce qu'on n'est pas tout seul, il n'y a pas que la France. Mais bon, le ministère du Travail est très, très, très proactif là-dessus au niveau européen, suite aux évaluations qu'on a fait à l'ANSES, justement, là-dessus. Voilà. Et sur les particules fines et les nanoparticules donc liées à la pollution ou à des situations de pollution, soit environnementales, soit liées à des activités de travail, on est en train de faire aussi aujourd'hui des évaluations pour pouvoir aider à mieux gérer ces risques-là en milieu de travail. Donc on aura des résultats voilà, dans le temps qui vient.